Mes frères bien-aimés, la scène à laquelle nous venons d'assister est sublime. Déjà, nous sommes en présence d'un tandem étincelant, Jésus qui n'est autre que Dieu en personne, et Jean-Baptiste qui est le plus grand des hommes. Ensuite, nous assistons à un renversement inattendu. Dieu qui se met à genoux devant un homme, et pour que le signe soit complet, Dieu qui se déshabille entièrement devant un homme. Ah, c'est que le Christ n'a pas peur de la chair. Il est chaste, mais pas pudibond. Enfin, nous avons le privilège de percevoir le Père et l'Esprit qui s'invitent à la fête pour faire de cet événement temporel un événement éternel. Pendant les quelques secondes qu'a duré le baptême, le temps a dû comme s'arrêter. Il y a dû avoir un grand silence. Tous les auditeurs de Jean-Baptiste ont dû suivre avec une intensité rare la descente du Christ dans les eaux et sa remontée. Même les poissons sous l'eau, j'en suis sûr, ont dû arrêter de nager, des petits crabes jusqu'aux grands poulpes. Eh bien, si toute la création a été en émoi à ce moment-là, c'est tout simplement parce que c'est la seule fois de toute l'histoire de l'humanité où la Sainte Trinité s'est révélée publiquement et physiquement. Nous entendons le Père, nous touchons le Fils, nous voyons le Saint-Esprit. C'est un instant tout simplement unique et qui ne se reproduira plus jamais sur notre planète. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'annonçait un tel déferlement de magnificence, parce que l'épisode que traverse le Christ semble complètement anodin. Descendre et remonter de l'eau, en apparence, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Nous devons donc étudier cet épisode de près pour voir ce qu'il a de si attirant pour la Trinité. Vous savez sûrement, même si c'est une donnée que l'on oublie souvent, que le Messie était vivement attendu du temps de Jésus. Jean le Baptiste, de son côté, savait, par révélation divine, que sa mission était de préparer le peuple élu à recevoir le Messie. Voilà pourquoi il a mis en place un baptême, qui n'a rien à voir avec le nôtre, si ce n'est qu'il est pratiqué avec de l'eau, un baptême de repentance, par lequel chaque Juif déclarait devant tout le peuple et devant Dieu qu'il regrettait ses péchés et qu'il voulait se convertir. Par ce geste simple mais fort, tout le peuple montrait ainsi à Dieu qu'il était prêt à accueillir le Messie et qu'il pouvait donc l'envoyer. Et voilà que Jésus arrive et participe également à ce geste. Mais pourquoi donc a-t-il fait cela? Et pourquoi cela a-t-il tant bouleversé la Trinité? Pour le comprendre, regardons les choses avec un regard plus général. Le pardon n'est accordé que s'il est demandé. C'est là une évidence. Aussi, pour que le pardon soit accordé à l'humanité entière, ce qui était la mission du Messie, ce pourquoi Jésus est venu sur terre, il fallait que l'humanité entière demande ce pardon. Or, il faut bien reconnaître que ce n'est pas le cas. Premièrement, une grande majorité d'hommes ne demandent pas pardon à Dieu pour leurs péchés. Deuxièmement, parmi ceux qui demandent pardon, une grande majorité ne pense pas à toutes leurs fautes, mais en cache certaines ou en oublie d'autres. Troisièmement, même ceux qui demandent pardon pour toutes leurs fautes, ils ne le font pas de manière parfaite, c'est-à-dire par pur amour de Dieu, mais toujours pour autre chose avec. Faire plaisir aux parents, éviter l'enfer, se sentir moins coupable, et j'en passe. Eh bien voilà pourquoi Jésus reçoit le baptême de repentance. Afin de demander pardon à Dieu pour toute l'humanité et afin de le faire de manière parfaite. Alors, le cœur de Dieu fond en une seconde. Enfin, un homme qui me demande vraiment pardon et en plus, il le fait au nom de tous. Enfin, grâce à cette demande universelle et parfaite, l'humanité est réconciliée avec Dieu. Enfin, il n'y a plus de distance entre les deux. Bien évidemment, cela est encore à l'état d'embryon et ne sera effectif qu'après la croix et la résurrection. Mais cela est tout de même déjà contenu dans le baptême du Christ. Aussi, mes frères, si nous voulons réjouir le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme ils l'ont été en ce jour, nous savons ce qu'il nous reste à faire, demander pardon. Demander pardon dans notre cœur quand nous avons commis un péché. Demander pardon à ceux que nous avons blessés. Mais surtout, demander pardon à Dieu à travers le sacrement de la confession. Alors là, quand nous sommes devant le prêtre, nous réjouissons la Trinité, car nous nous associons au baptême du Christ, à ce moment historique auquel nous venons d'assister. Nous insérons notre petit pardon dans le grand pardon que Jésus a prononcé quand il était dans le Jourdain. Et alors, quand nous recevons l'absolution, nous pouvons être sûrs que le Saint-Esprit vole au-dessus de notre tête et que le Père nous dit « Toi, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Mes frères, n'en doutons pas, à chaque confession, c'est la même joie qui transit le cœur de la Trinité, cette joie qu'elle connut lors du baptême du Seigneur. L'autre enseignement de ce jour concerne l'agir de Dieu notre Père. Vous savez que nous ne l'entendons que très peu dans les évangiles. On se serait attendu à ce qu'il se fasse connaître pour la première fois après un grand miracle du Christ, après la multiplication des pains par exemple, afin de montrer à quel point il est puissant et que c'est lui qui mène la marche de l'univers. Et non, c'est quand le Christ n'a rien vécu d'extraordinaire, quand le Christ n'avait rien de plus attrayant que les autres hommes, c'est là que le Père se manifeste. Et c'est là aussi que nous devons nous manifester vis-à-vis de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Nous serons vraiment des fils de Dieu si nous nous montrons non pas quand la personne est au sommet de sa gloire, mais quand elle est au fond du trou. Si votre femme est cantatrice et que vous montez à côté d'elle à la fin d'un récital dithyrambique pour dire à tout le monde « C'est ma femme, c'est la mienne !» Votre preuve d'amour ne vaut rien. Par contre, lorsqu'elle est au fond de son lit et que vous devez donner à manger aux enfants, faire les devoirs avec eux, les laver, les coucher, si à 22h30, quand vous vous approchez d'elle pour lui donner son traitement, vous lui dites « Ma chérie, en toi je trouve ma joie », alors là, vous êtes un fils du Père. Si votre enfant est au lycée et que vous lui dites, quand il ramène un 20 sur 20 en maths, « Je suis fier de toi », votre preuve d'amour ne vaut rien. Par contre, si après avoir travaillé 3 heures avec lui sur un DM de physique, vous lui dites, une fois qu'il a tout recopié au propre, « Mon chéri, en toi je trouve ma joie », alors là, vous êtes un fils du Père. Allez, frère bien-aimé, je vais m'arrêter là. Retenons de cet évangile 2 choses. Premièrement, que ce qui fait la plus grande joie de la Trinité, c'est quand nous savons être assez humbles pour demander pardon aux hommes et à Dieu de ce que nous avons fait de mal. Il est alors plus heureux que jamais, car nous lui permettons de ne pas être au chômage technique, mais de travailler au salut des hommes. Secondement, retenons que le Père dévoile publiquement son amour à son Fils, non pas quand celui-ci est au sommet de sa vie publique, mais quand il est dans ce qu'il y a de plus anodin. Eh bien, agissons de ces 2 manières envers nos familiers et nos proches. Quand ils s'humilient, quand ils nous demandent pardon, faisons éclater notre joie, et non notre petit orgueil et notre ressentiment. Quand ils sont faibles, quand ils ne sont pas sous leur meilleur jour, déversons sur eux notre amour, et non notre petit dédain et notre dérision. Amen.